Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 173. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Là, Pascal, t'es donc un chic, là, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu nous accueilles comme ça?
Ben là, c'est ça, on enregistre sur Skype, puis là, c'est parce qu'en ce moment, en fait, je suis figurant sur le tournage de mon ami Santiago Mengini, que vous avez peut-être vu un court-métrage de lui qui s'appelle Intruders ou Voyagers, qui est à Sundance, entre autres. Là, il y a Milk, un autre court-métrage qui va avoir sa première mondiale à South by Southwest. Puis là, on tourne Red Wine, son prochain court-métrage, produit par ma blonde, Dominique Dussault. C'est au Windsor, c'est fucking chic. Puis, je suis en nœud papillon, puis je fais le podcast comme ça, entre deux scènes. Fait que ça, c'est de la dévotion.
Ah, parce que tu retournes après?
Ben, on rappe un peu après, là. Okay, mais c'est sûr, en tout cas. J'aide à rapper, puis tout ça, là. Je suis le support moral de ma copine et une aide générale, et aujourd'hui, c'était besoin flagrant de figurants. Puis Santiago, en plus, c'est un gourou d'effets spéciaux, là, fait qu'on va même doubler des foules, puis en tout cas, ça va avoir l'air de looker comme $1 million, ce court-métrage-là. Je pourrais le comparer à Next Floor, un peu, là, dans l'ambition, même, là, de...
Bon. Je suis hypé, là.
Ah, sinon, il y a de quoi, pour vrai, là... C'est moi qui fais l'assistant monteur le soir, là, qui synchronise les rushs et tout ça, puis qui prep les dailies pour le lendemain. Puis c'est sérieux, ça look, ça a pas de classe comment ça look, là. Fait que voilà. Mais là, mieux que ça, en fait, on était censé enregistrer mardi, plus frais là, pour notre recap des Oscars. Là. Notre recap, il va être un peu slowpoke, là. On est un peu en retard. Mais c'est ça, j'étais à Jonquière quand on était censé de faire notre enregistrement. Puis mon film était projeté à Jonquière, mais là c'était une salle de cinéma tout petite, puis j'avais comme aucun lieu pour le faire. Puis là, je me sentais full self-conscious de genre faire l'enregistrement à ce moment-là. Puis sérieux, les gars,
ça arrête de la machine à popcorn à gueuler. Bonjour, viens d'un point de vue.
Ben ouais, c'est ça, tu sais. Puis tel film, c'est de la merde pour telle raison. Non, mais tu sais. Fait que c'est un peu dur de se coordonner, mais on est dévoués pour vous, chers auditeurs, là. On est vraiment dévoués. Fait que here I am, là, en nœud papillon pour vous autres aujourd'hui.
Ben oui.
Fait que c'est ça.
Mais, parlant de bel homme en costume, cravate et nœud papillon, dans un tournage d'un film qui look à plusieurs millions de dollars, c'était les Oscars?
Ah ben oui, absolument.
C'était les Oscars dimanche. Puis là, apparemment... Là, vous mettez beaucoup de pression, de peer pressure, là, vous me bulliez pour qu'on en parle à chaque année, les Oscars, là.
Ben ouais,
parlons-en.
Moi, je bullie pour qu'on les regarde en gang, parce que Paul, il est toujours grognon à propos des Oscars, tu sais, Paul, il parle des Oscars 3 mois avant, mais il est déjà grognon 3 mois avant, puis genre, la soirée, j'ai popé, puis il a fait, il faut bien que je t'aime, toi, pour qu'on regarde les Oscars ensemble. Mais il me semble que c'est un événement, tu sais, c'est le trip de le regarder en gang, puis de chialer en gang, là. C'est comme un bye-bye, là.
Exactement.
Tu sais, c'est comme un bye-bye, mais sans l'humour, puis le côté le fun.
Ben, OK, t'as peu. Déjà, c'est un contexte particulier, puis on va y revenir, là, sur la cérémonie. Bon... Déjà aussi, juste, on en parlait un peu le dernier podcast, la QV de films, surtout dans meilleurs films, parce que les films dans langue étrangère, puis les documentaires, les documentaires Visage Village de la semaine à l'épaule, c'est vraiment bon, mais là, le gagnant Icarus, on passera, là, c'est vraiment un film qui est complètement, je veux dire, qu'il y a des ombres de guerre froide, c'est complètement daté dans son propos, avec le metteur en scène qui se met en scène de la façon... C'est vraiment un documentaire, ça vole pas haut pour faire de mauvais jeux de mots avec Icarus. Là.
Ouais. Mais ceci dit, je l'ai pas vu, mais c'est très d'actualité avec les Olympiques.
Ben, c'est ça. C'est comme... Bon, fait que déjà, documentaire, déception, meilleur film en langue étrangère. Moi, je t'avoue, depuis le dernier podcast, maintenant, j'ai vu The Square. Tu sais, à un certain moment dans le podcast, personne de nous trois ne l'avait vu.
Non, moi, je l'ai vu il y a longtemps, me semble, quand même.
Toi, tu l'as vu il y a longtemps?
Ouais, ben pas à la sortie, comme pas le premier week-end, mais je l'ai vu un bout, là.
Ouais, bon, ben, en tout cas, bon, bref. Mais quand on avait parlé au podcast, personne ne l'avait vu à ce moment-là. Un film que, bon, je veux dire, j'ai bien aimé dans son ensemble. Je trouve un peu que ça s'écroule dans la dernière heure, puis ça s'écroule dans sa globalité, mais c'est quand même un amalgame de scènes assez intéressant. Mais c'est un petit peu trop, ça se moque un peu trop des bourgeois, je pense, pour gagner aux Oscars. Fait que, dans ce département-là, je pense que A Fantastic Woman était... et mérité, et je crois peut-être un peu même prévisible, mais vraiment, c'est dans la catégorie meilleur film que cette année. Je veux dire, il y a quand même de quoi se réjouir pour les cinéphiles, là, entre Phantom Thread, puis Call Me By Your Name, puis The Shape of Water. Je veux dire, on parle quand même d'une belle cuvée de films. Donc déjà là, ça nous met le sourire dans la face d'entrée de jeu. Est-ce que ton sourire s'est resté collé dans ta face, Paul, en regardant les Oscars?
Ben, j'ai-tu vraiment le sourire quand on parle des Oscars? Je pense pas, là.
Non, mais... il était tanné vite, là, comme d'habitude, là. Parce qu'on l'a pas regardé, en fait, c'est ça, l'affaire, on était, habituellement, on le regarde les trois ensemble, là, ben, souvent, là. Puis ouais. Là, Pascal, il était au loin, dans la contrée lointaine de Québec City. Fait qu'on l'a, on a comme pas partagé nos impressions encore à trois, là.
Non, mais on se textait, là. Moi, je textais pas, là. Puis, quand Get Out a gagné, là, entre autres, là, je veux dire, ça, c'est probablement une des plus belles surprises de la soirée. Mais juste un dernier petit point trivia, là. Moi, c'est ça, j'étais à Québec. Je faisais aussi la promotion de mon film à Québec à ce moment-là. Puis, Michel Patry, je le salue, il nous a invités dans un bar, le Sacrement. Puis, on a regardé ça avec les gens du FFEQ, du Festival des films étudiants de Québec.
Le Sacrement, ça, c'est le nom du bar, là.
Le Sacrement, c'est le nom du bar, exactement. Ouais. Puis avec les gens
du FFEQ. J'ai été dans un bar, le Sacrement.
Exactement. Puis, en fait, c'est que c'est vraiment drôle. C'est que, tu sais, quand les Oscars, c'est fini, ben, tu sais, c'est un peu comme genre... Bon, on a eu notre... c'est fini, là, on remballe, là. Fait que je suis parti sans payer ma bière. Fait que Michel Patry, je le salue, il a payé mes drinks la soirée.
Wow.
Fait que il fallait que je le mentionne au podcast, comme ça. Je suis parti comme un bandit.
Parfait. Bon. Donc, c'est enregistré, tu lui dois une bière.
C'est ça. J'en dois même deux. Le spectre du... c'est un peu en continuité de Oscar So White et de diversité, Black Lives Matter, tout ça. Et cette année, le nouvel éléphant dans la pièce qu'il a fallu adresser puis désamorcer dès le monologue d'ouverture, c'était évidemment hashtag MeToo, pour des raisons évidentes. Mais c'est comme si on a tout désamorcé, puis ça a fait qu'il restait très peu de place, à part Frances McDormand, pour des speeches qui donnaient une nouvelle lumière sur peut-être les propos thématiques. C'est comme si rendu là, on a déjà... Tout le monde est un peu sur le même pied en voulant dire, ben, on en a beaucoup parlé, c'était très bien d'en parler, mais là, c'est un peu comme, on fait un monologue d'intro, on désamorce toutes les bombes, puis après ça, ben, on fait le party. Puis, j'ai trouvé ça dans un sens, je sais pas en fait qu'est-ce que j'en pense de ça. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'en pense.
Ben non, ce qu'on en pense, là, c'est que c'était une cérémonie de trop, comme d'habitude. Qui écoute les Oscars? Tout le monde écoute les Oscars, tout le monde aime pas ça. Genre, j'en parle à mes collègues le lendemain matin, puis personne n'aimait ça. Tout le monde trouve que c'est trop long, ça dure 4 heures. J'arrive au bureau, je suis tout croche, tout fatigué. Puis ouais, pourquoi? Le monologue d'ouverture, là, on l'avait raté parce qu'on avait des problèmes genre de connexion. Là, je l'ai réécouté comme le lendemain après ça, puis j'étais comme... Tu sais, il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est toutes les... Tu m'avais dit de genre, prédire les speeches d'ouverture. Non, mais c'est juste... Je comprends pas pourquoi c'est
big deal.
Ben
non, on a eu quelques moments où on cheers dans la soirée puis que c'est le fun.
Ouais, mais parce que j'étais avec des amis, tu sais.
Ouais, ouais, ben c'est ça, ben exact, là. Mais tu sais, moi je pense sur ton point, Pascal, je pense que... je pense qu'il avait comme pas le choix de faire ça, tu sais. Il savait que ça allait anyway, qu'il allait anyway avoir du monde qui allait en parler. Fait que le discours de Frances McDormand. Mais là, c'est parce que. Imagine s'il avait. C'était juste à propos de ça, comment ça serait lourd, tu sais. Fallait qu'il starte puis qu'il brise ça en partant. Là.
Mais ça a été ça tout le long. Ça a été ça tout le long.
Ouais.
Mais t'sais, moi, c'est une cérémonie qui est plate. Genre, elle va pas. Tu sais, genre, on va s'en rappeler. On va la. Mettons que tu la réécoutes dans 30 ans. Là.
T'as-tu hâte à l'année prochaine, Paul?
Ah ouais.
Oui, tout à fait. Non, mais tu sais, mettons, dans 30 ans, tu réécoutes la cérémonie. Là, tu es comme, pourquoi est-ce que tout le monde parlait là, de sexe puis de prédateurs sexuels? Ah oui, c'était cette année-là. Tu sais, puis.
Non!
Puis ça fait pas de la bonne télé, pour vrai. Genre, je m'excuse, là, mais. Puis c'est pas que je compte ça. Tu sais, je suis comme, oui, ça a été nécessaire, MeToo, puis tout ça, mais. Là, c'est censé être une célébration de comme ce qui fait le meilleur en cinéma. Puis ce que je vois, c'est genre un montage qu'on appuie nos vétérans de guerre. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, ouais, non.
Ah ouais, ça c'était
dans un moment de promotion de la NRA. Genre, je sais pas. Ouais. Je trouve ça vraiment weird. Puis tu sais, comme, il y a tellement de trucs de faux pas aussi pendant le show. Tu sais, notamment, In Memoriam, il remercie pas, genre, il souligne pas la mort de Toby Hooper, comme quand même un des géants, tu sais, du cinéma de genre.
Il en manquait, ouais.
Dont les images de Texas Chainsaw Massacre qui ont été diffusées pendant le montage de l'histoire du cinéma. Tu sais, c'est drôlement ironique. Là.
Il a manqué Jean Rochefort, puis il y en a une couple d'autres aussi comme ça.
Adam West, cette année aussi? Adam West?
Ouais. Mais tu sais, check Paul. C'est parce qu'en fait, tout le monde chiale sur les Oscars en disant c'est trop long, en disant c'est pas entertaining. Je te contredirais sur une chose. Bon, effectivement, je me suis un petit peu fait chier par moment. Notamment, je veux dire, tu sais, introduisez pas les chansons en 3 minutes. Je veux dire, la chanson, elle parle d'elle-même, là. Tu sais, je veux dire, laissez, mettons, les 5 tunes de films arriver. Mettez au pire des images des films en background. On comprend quelle tune vient de quel film. Ah, boum, on vient de couper déjà 10 minutes, là, tu sais. Puis je pourrais t'en sortir d'autres, des trucs comme ça. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je pense pas qu'on regarde ça juste pour être diverti, les Oscars. Moi, je trouve que c'est, on tente le pouls de la gauche culturelle américaine à un moment précis, tu sais. Puis on s'en rappelle de Marlon Brando qui a dit chez les Oscars, puis tu sais, qui a fait monter Voyons, tu sais, l'Amérindienne, ouais, là, désolé, je me rappelle pas de la nation particulière, mais tu sais, on se rappelle de ces moments-là, c'est plus politique qu'on pense. Puis moi, là, j'ai trouvé ça intéressant pour plusieurs raisons, notamment, OK, c'est Voldemort, Trump, là, tu sais, je veux dire, c'est celui dont on ne prononce pas le nom, là, complètement. Moi, je trouve ça complètement capoté qu'entre les Golden Globes et les Oscars, on puisse faire un show qui est politisé, sans parler de Trump, sans le mentionner directement. On parle des Dreamers, on parle de ses politiques, on parle de, voyons, il arrive, puis il dit « je suis un immigrant ». Puis, c'était l'année du Mexique, je veux dire, entre Coco, puis entre The Shape of Water, Guillermo, tout ça. C'était l'année du Mexique, donc ça, c'est politique. Moi, ça m'intéresse, ça. J'aime ça, moi, lire entre les lignes des Oscars. C'est pas juste... Bon, à part quand ils s'en vont, genre, surprendre là, la plèbe, là, avec, en leur lançant des hot dogs.
Oh, ça, c'était fou. Ça, je veux dire,
je trouve que c'est vraiment de mauvais goût.
Tu mets un hot dog dans la petite foule. Là.
Hey, man.
Je vais vous lancer des hot dogs, les amis. C'est comme.
Ouais, non, c'est
on
ça.
On va nourrir le peuple.
C'est ça, avec des hot dogs en plus, Chris.
Ah oh, ouais.
Bon. Fait que ça, on repassera. Mais.
Mais l'année passée, il y avait aussi la gang qui rentrait dans la salle. Là. Puis ça, c'était aussi pire. Ouais. C'était tellement weird, cette affaire-là.
Mais au moins, ça durait pas genre 10 minutes. Là.
Ouais, ouais, mais ouais, quand même. Laissez faire ça, là.
Fait que tu sais, il y a des fautes de goût, mais tu sais, je veux dire, au final, on met quand même le spotlight sur des bons films. Ça reste quand même une célébration du cinéma. Tu sais, moi, ma mère, mettons, c'est tout le temps mon meilleur barème, là. Tu sais, ma mère, elle a découvert c'est qui Frances McDormand cette année, puis elle a découvert, tu sais, c'est comme, il y a quand même quelque chose de bien de mettre de donner une voix puis une grosse tribune à, tu sais, c'est ça, l'espèce d'intelligentsia de gauche d'Hollywood, bon, qui s'auto-congratule puis qui est un peu à côté de la plaque par moment, mais je sais pas, moi, il y a quelque chose de sociologique derrière les Oscars qui me plaît, je l'avoue. C'est vrai que c'est fucking long, par exemple, là, ça, on s'entend. Et qu'en est-il des gagnants, les amis? Qu'en est-il des gagnants? Get Out, meilleur scénario original, ça, c'est une très belle surprise.
Oui, oui, oui. Ben, je te dirais que c'est ça, c'est une année qui était le fun là-dessus, j'avouerais, parce que des fois, il y a des années qui est comme le gros gagnant que tout le monde, tu sais, le frontrunner, là,
ouais.
Ou des fois, ça vient des luttes à deux ou quelque chose comme ça. Et j'avoue que cette année, c'est le fun parce qu'il y avait quand même plusieurs catégories chaudement disputées, à mon avis. J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de surprises. Mais, bon, tu sais, comme mettons The Shape of Water, oui, c'était le film avec le plus de nominations, mais ça reste quand même certainement un film atypique pour lui donner comme le grand prix ainsi que le prix du meilleur réalisateur.
Oui, oui.
L'année du cinéma de genre, là, moi, je capote un peu. Là, c'est vraiment. Le cinéma de genre était à l'honneur, là, autant avec les scénarios que les Best Pictures. Là, c'est quand même cool. Là. Ça démocratise ça un petit peu, puis ça fait du bien d'avoir ce push-là. Là.
Ouais, je suis assez d'accord. Puis tu sais, un peu comme La La Land de l'an passé, c'est comme si, en étant un peu un favori, il devient un peu... Il endosse des critiques qu'il peut-être mérite pas nécessairement. Là, tu sais, on le compare à outrance, à, tu sais, à Splash, à, tu sais, évidemment, Jean-Pierre Jeunet, puis tout ça. Mais tu sais, il y a aucun de ces films-là qui gagne Best Picture aux Oscars, je veux dire. Puis en plus, là, ça, c'est si on oublie que The Shape of Water assume, là, la sexualité, là, genre, tu sais, c'est puritain en maudit, là, le cinéma hollywoodien, là, dans ce genre d'échelle-là. Tu sais, on dirait que tout le monde essaye de le minimiser, The Shape of Water, en le comparant à ci, puis à ça, puis il y a emprunté de ci, puis, ben, c'est pas nouveau, Edward Scissorhands, ou tu sais, c'est pas nouveau, telle affaire. Je suis comme, ouais, mais man, l'amalgame, il est tellement subversif. Je trouve que comme oui, clairement, c'est un amoureux de tellement de films, puis on peut donner tout plein d'influences, mais toutes ces influences-là, c'est du cinéma art house, où il y a quelques films mainstream ou des films cultes, mais là, on parle d'un film qui était nommé à 13 fois aux Oscars, ou c'était tout ça 13, en tout cas, puis il a gagné meilleur film, meilleur réalisateur, ok, là, tu sais, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Del Toro, il a mangé ses bas pour en arriver là, puis pour être reconnu dans cette ligue-là, chapeau, pour vrai, c'est un beau film, là. C'est comme quand on va regarder dans 15 ans les meilleurs films, on va faire « Ah, c'était curieux de Shape of Water », mais curieux, c'est bon. C'est bon dans l'histoire des Oscars.
Oh,
des
on va s'en souvenir, on va vraiment s'en souvenir de celui-là. Contrairement à beaucoup c'est de Best Pictures qui vont tomber vite dans l'oubli, là. Mais cette année, il y avait tellement de bons titres, mais c'était des bons titres, en plus, dans des styles complètement différents, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout le monde se range d'un côté du style qui vont leur toucher le plus, mais en même temps, ça restait que c'était pas mal des bons films, généralement, là, tu sais, généralement, je dis bien. Ouais. Parce que je pense qu'on va avoir une critique d'un des Best Pictures nominés que moi pis Paul, on n'a pas vu, là.
Ah ouais, my god, ouais, le pire de la gang, là. Mais en tout cas, fait que tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on en retire des 90e Oscars? Ben, qu'il va en avoir un autre l'an prochain. C'est ça.
Tu nous synthétises ça,
oui,
toi, Pascal?
Puis, De manière très, très chauvine, en fait, c'est cool que Blade Runner gagne pour les meilleurs VFX.
Oui.
Puis comme moi, je vous en ai parlé, en fait, hors d'onde, tu sais, ce qui est le fun de ce prix-là, c'est que notre industrie des effets spéciaux est tellement grosse. Tu sais, Montréal, c'est vraiment un des piliers de l'industrie des effets visuels, ainsi que des jeux vidéo. Tu sais, les deux industries sont très reliées. Et quand tu as un shout-out à Montréal pendant les Oscars, pour ce prix-là en particulier, ça permet vraiment de donner un boost à notre industrie.
Ouais.
Ça, c'est super cool. Donc, tu sais, ça aide vraiment beaucoup le milieu. Tandis que, tu sais, quand quelqu'un gagne, mettons, meilleure musique, ben, ça aide beaucoup ce compositeur-là, mais pas nécessairement comme autant l'industrie, là.
Ouais.
Donc, ça, c'est cool. Puis, tu sais, aussi, ce qui est quand même ironique, c'est que là, c'est l'année de Me Too, mais on donne quand même un Oscar à Kobe Bryant, qui a été quand
Ouais.
même, genre, pas mal accusé de, genre,
Viol,
de
carrément, hein?
viol.
C'est pas juste
Fait que.
sexual harassment, là. On a même sorti
Ouais.
le mot, là.
Mais
Ouais.
bon,
J'ai tout
en
dit
tout cas.
juste sexual harassment. Excuse-moi, là, je veux pas comme grader les. Ouais, en tout cas, ça
Non, c'est ça.
sonnait wrong, là, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. Ça venait pas d'une mauvaise place. Et peut-être juste finir avec un autre Oscar que j'ai quand même qui m'a mis le grand sourire aux lèvres. C'est Phantom Thread, meilleur costume. S'il en était un, j'aurais bien aimé que Johnny Greenwood gagne la musique, c'est clair. Ben, en fait, moi, j'aurais aimé que Paul Thomas Anderson gagne tout, là, mais ça n'arrivait pas anyway. Mais les costumes, parce que c'est un film qui nous fait. Je l'ai dit quand on critiquait un peu Phantom Thread. Moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui me saute aux yeux. Ma sensibilité première ne vient pas nécessairement de la direction artistique et des costumes. Mais dans le cas de Phantom Thread, comme on suit la logique psychologique de quelqu'un qui est un passionné de vêtements et de haute couture, c'est comme si on devient à travers lui un passionné de vêtements. Puis je me suis tellement ému devant la beauté plastique de tous ces costumes-là que j'en étais attaché, tu sais. C'était comme quand il a gagné, j'en étais attaché. J'étais genre, c'est un de ceux que j'ai quasiment sauté, là, cri de joie, là, pour Oscar du meilleur costume. Donc, quand même, je voulais le souligner parce que c'est pas chaque année que ça arrive. Fait que, ouais.
Ben, moi, une tendance que je déplore aussi, c'est que j'ai l'impression, je connais pas toutes les règles pour toutes les catégories, mais je sais que, mettons, il y a eu un changement de règles cette année pour le long métrage d'animation, et ce n'est plus uniquement la branche d'animation qui vote, mais c'est tout le monde qui vote pour le meilleur long métrage d'animation. Ce qui fait que ça a tendance, évidemment, plus il y a de monde qui vote. Plus il y a de gens qui sont moins spécialistes qui votent, plus on va vers le consensus facile. Et là, donc, c'est Coco de Pixar qui gagne. Je dis pas qu'il ne méritait pas cette année, mais ce genre de règles-là, ça fait que ça va toujours être de plus en plus en nomination les gros films. Ça va être les gagnants, ça va être les plus safe. Puis, tu sais, une joke que je dis souvent, c'est que c'est pas nécessairement meilleur make-up qui gagne, mais genre most make-up. Puis, c'est pas nécessairement meilleur costume, mais genre most costume. Puis je pense on se dirige vers de plus en plus du consensus. Puis justement, tu sais, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de chialage sur la catégorie d'animation, tu sais, parce que ça a été. Tu sais, traditionnellement, c'est quand même une catégorie qui était quand même assez audacieuse avec des. Tu sais, puis ça donne tellement des gros coups de main à des petits films, des fois, là. Tu sais, quand t'as, mettons, La Tortue Rouge qui est nominée ou un film de japonais pas trop connu, tu sais,
Ben
ça
là, il y
donne
avait
tellement
Loving
gros coups de
Vincent qui est un
pouce.
peu le concurrent de cette
Ouais,
année, un peu
ouais,
plus
ouais.
artistique, là.
Aux côtés de genre The Boss Baby, tu sais,
Le
quelque part.
Boss
C'est ça.
Baby. Ça, c'était la blague de l'année, là. C'était quand même
My
intense.
God.
Fait que bon, ça, c'est le genre de truc que, tu sais, je trouve que. Tu sais, puis moi-même, je sais pas, tu sais, je suis la meilleure personne pour juger des make-up ou des costumes ou du montage, ça, tu sais, je pense pas. Puis c'est pour ça que je pense qu'on devrait réserver ça à vraiment des spécialistes de chaque branche, tu sais. Mais bon, ça, c'est. Vous direz que je fais juste chialer sur les Oscars de toute façon, fait que, tu sais. Ce n'est qu'une pierre de plus à mon édifice, mais ouais.
Bon, écoute donc. Ben, c'était les Oscars, crime, pour quelqu'un qui voulait pas trop débriefer. On a quand même débriefé quasiment 20 minutes.
Voilà. Voilà. Alors, sinon, c'était également les RVQC.
Oh yeah!
Ouais. Et donc, on a passé beaucoup de temps au RVQC, à voir des films, à voir des courts-métrages, notamment parce que toi et moi, Rémi, on en programme. Donc, on essaie d'être bien à l'affût. Puis toi, Pascal, t'en as toujours écouté beaucoup, des courts-métrages.
Ouais, c'est ça. Ben oui, exact, exact. Je suis allé même voir un programme parce que ça fitait dans mon horaire. Puis j'aime ça, évidemment, regarder des programmes de court-métrage. Même si on en a déjà parlé au podcast, que tu sais, des fois, toi, Paul, ben, en particulier, tu sais, des fois, tu questionnes le programme classique, un peu, là, 1 heure et demie de court-métrage back-à-back. je t'entends, mais puis surtout qu'en plus au rendez-vous, la plupart du temps, tu as vu tes films dans le programme, fait que là, tu tapes le programme, mais là, mettons, sur les 6, tu en as vu 2, bon, ça, c'est, ça peut arriver, mais regarde, écoute, ça, c'est la vie, hein.
Moi, je vais plus vraiment... En fait, je contredis un peu Paul, mais moi, je vais pas tant en voir en salle parce que j'en regarde tellement déjà chez moi... au rythme que je veux, tu sais, j'en reçois vraiment beaucoup avec Fantasia, puis des fois je reçois aussi des liens de festivals que là je peux voir des... Fait que j'en consomme tellement à la maison qu'effectivement, dans les programmes, il y a très souvent quelques courts-métrages que j'ai déjà vus. Fait que ça me donne moyen quelque chose de m'asseoir dans la salle pour voir des films que je vais anyway pouvoir rattraper de mon côté. Fait que tu sais, moi, mon festival, je l'ai plus passé dans les longs-métrages pour rattraper des trucs que j'ai pas vus cette année. Puis en plus, j'avais un peu plus de temps que d'habitude. Habituellement, cette période-là, je suis pas mal occupé. Puis là, j'avais un peu plus de temps. Fait que j'ai pu voir une dizaine de films quand même. Donc,
mais au moins, dis-moi, Rémi, au moins, dis-moi que tu prends les mesures. Tu sais, parce que comme tu les regardes pas en salle, tu sais, chaque cinéaste va dire dans son utopie, il va dire, ah, ça serait donc parfait que tout le monde voit tous les films en salle. Or, on le sait que le contexte actuel fait que c'est évidemment impossible. Mais toi, au moins, tu sais, je sais pas, tu l'installes sur ta télé. Puis tu sais, au moins, tu donnes des conditions. Ouais, ouais, c'est ça.
J'ai mon Chromecast sur la télé, fait que c'est comme, tu sais, je les regarde à mon rythme, puis, tu sais, c'est vraiment mieux de même, parce qu'à un certain moment aussi des courts-métrages, c'est que tu replonges dans un nouvel univers pour une courte période de temps, fait que des fois, quand tu resets depuis, comme, tu sais, si le programme de courts-métrages est trop long, c'est un peu ça le problème, c'est que tu resets ton cerveau un peu trop de fois, puis à un certain moment, t'es juste écœuré, fait que tu peux te faire des séances de 1 heure, puis regarder à ton rythme. Moi, là, je vais regarder un de 20 minutes, peut-être un petit de 2-3 minutes, puis tu consommes à ton rythme, puis je trouve que c'est plus profitable. Moi, je m'en souviens un peu plus des courts-métrages.
Puis je pense aussi qu'il y a juste une réalité de programmateur, tu sais, comme arriver quelques semaines avant Fantasia, ou tu sais, comme quand la période de soumission tire à sa fin, on sait que les gens en général envoient beaucoup leurs films, tu sais, dans les derniers jours. Fait que je pense qu'il y a juste une réalité que c'est pas possible autrement.
Ah non, c'est ça. Mais au moins, il faut se donner les conditions de les voir, pas genre sur un coin de table, sur un laptop, en bouffant ou en faisant la vaisselle. Là.
Non,
mais
c'est ça, exactement.
Mais je sais que t'es assez rigoureux pour pas faire ça, là, évidemment.
Mais c'est un peu la réalité de devoir tout en écouter autant, tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, si j'en consommais moins, ben tu sais, avant, j'allais les voir en salle, j'allais toujours voir quelques programmes, peu importe le festival, là, j'essaie de voir un programme de court-métrage ou deux, puis... Au moins être un peu à jour, là, mais c'est toujours mieux d'avoir une expérience optimale. Mais c'est juste que là, il faut que j'en regarde au-dessus de 300. Fait que c'est sûr que c'est plus faisable de cette façon-là. Là.
Ouais. Bon.
Mais là, les RVQC, là, en 2018, là, ils se sont dit, ça nous prendrait un gros film là, pour ouvrir le festival. Là, quelque chose de festif. Tu sais, c'est les rendez-vous du cinéma québécois, là, de Québec Cinéma. On veut attirer les gens, là, on veut attirer le public, là. Pourquoi pas mettre Pour vivre ici de Bernard Raymond en ouverture?
Faut quand même respecter Bernard Raymond. On va quand même mesurer nos mots. On va mesurer nos mots. Mais, toi Rémi, donc,
non, mais
Pour vivre ici.
Il y a un contexte.
Ah oui, je sais.
C'est juste que c'est le film d'ouverture.
Ah oui.
C'est ça qui me fâche. T'sais, c'est pas un film d'ouverture. Un film d'ouverture, là, c'est censé être le gros party, tu débouches le champagne, t'accueilles tout le monde, c'est protocolaire.
Mais ça sent la coupe? Ça sent la coupe?
Ben oui, n'importe quel autre film que, tu sais,
hey, non.
Une comédie, n'importe quoi, là, tu sais, quelque chose de le fun, tu sais. Pour vivre ici, là, tu sais, pour ceux qui le savent pas, donc c'est le nouveau film de Bernard Raymond avec Élise Guilbeault, dans lequel elle joue le rôle d'une pauvre femme endeuillée. Okay. Et c'est tout. c'est pendant 1h30, c'est des plans d'elle qui regarde au loin puis qui est bien triste, là. Puis je veux dire, bon, moi je trouve que c'est à peine du cinéma, ce film-là, mais reste, bon, il y a probablement des qualités. Ceux qui ont suivi toute son œuvre vont sûrement faire plein de liens puis vont être très contents, mais c'est tellement un film anticlimatique, là, tu sais, c'est le contraire de... Tu sais, le film parfait, mettons, pour lancer un festival, ce serait La Grande des Bellezza, genre. Mais ça, c'est comme l'opposé de La Grande des Bellezza, là. C'est comme l'exact opposé. Tu peux faire comme un diagramme, là. Tu mettrais La Grande des Bellezza en haut, puis Pour vivre ici, en bas complètement. Ça, c'est genre le grading des films d'ouverture de festival.
Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est sûr que les bons points de ça... Ben oui, Élise Guilbeault est bonne. Tu sais, bonne, elle joue bien, là. C'est Élise Guilbeault, c'est rare qu'elle joue mal. Tu sais, c'est une bonne comédienne. C'est comme... C'est sûr que c'est tout, tout doux, tout en douceur, tout en légèreté, mais tu sais, c'est comme... C'est un peu, là, pour vrai, du pilote automatique de Bernard Raymond, là. Il a fait ses gros films il y a plusieurs années, qui étaient, tu sais, c'était comme il signait son style avec la femme qui boit, avec la neuvaine. Mais au fil des années, ça reste que c'est un peu tout le temps la même formule. Puis il n'y a pas de. Il y a rien de spectaculaire dans ce cinéma-là. C'est pas nécessairement bien shooté, là. C'est super désaturé, triste. Des shots de paysage, mais comme un peu. Ben, belles, là. Ils sont belles, là, mais c'est comme. C'est pas. Ça, c'est pas des belles shots de je sais pas là, de spectaculaires là, c'est juste des belles shots de paysages ordinaires là. Je sais pas là, il y a comme c'est un peu fade là. Tu sais, si je peux résumer ça là, c'est je trouve que le poster il est parfait, c'est Élise Guilbeault sur un fond blanc avec une feuille blanche dans les mains. Comme tout est blanc là, c'est blanc 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 puis c'est il y a pas de saveur particulière là, mais oh ouais, là, il y a des petits trucs subtils à gauche, à droite qui montrent qu'elle vit son deuil, mais c'est pas... c'est ça, là, il y a rien qui nous brasse, il y a rien qui va te surprendre, c'est juste exactement tout ce que tu peux t'attendre d'un film comme ça, ben, c'est ça.
Bon.
Voilà.
Fait que gros, gros party après, vous êtes allé faire le party après?
Ben non, mais... non, non, là. Moi, je suis pas allé.
Bon, ben, coudonc.
Je suis allé pleurer chez moi. Hey, non, mais moi overall, mais... j'ai eu un beau festival, par exemple.
Ouais, c'est donc, le positivisme.
Ben, tu sais, je préfère le tour, là, mais je pense j'ai pas vu de vraiment de mauvais films. Il y a un autre film que j'ai moins aimé, mais sinon, tu sais, j'ai rattrapé Ceux qui font les révolutions, je l'avais pas vu encore. Puis, ouais. Ben là, je voulais vivre l'expérience en salle, c'était comme l'occasion pour le vivre, puis c'est... T'sais, là, je le dis comme un an et plus en retard, là, mais tu sais, c'est...
Ouais, mais quelle claque, hein? Quelle claque.
Ben oui, c'est vraiment... C'est une expérience à vivre, là. C'est vraiment, vraiment intense, c'est vraiment dense. C'est peut-être un peu long, là, mais je pense que ça s'assume dans sa forme, puis c'est... Je pense... Tu sais, c'est autant qu'il y a des trucs qui sont longs, autant qu'il y a des trucs qui me gossent, ça me gosse, mais en même temps, j'en veux pas du tout au film parce que je trouve ça malade qu'il ait pris les décisions aussi radicales. Fait que finalement, ça me gosse pas tant que ça, tu sais.
Non, exact.
Puis, tu sais, entre ça et La petite fille qui aimait trop les allumettes, également signée par Simon Lavoie, mais sans Mathieu Denis, cette fois-ci. Mais tu sais, entre ces deux films-là, là, tu sais, genre, quelle proposition de cinéma, là, tu sais. Puis c'est le fun d'avoir des cinéastes québécois comme ça qui sont ambitieux, tu sais. Il y en a, on a quand même très peu, là, tu sais, qui osent aller aussi loin, qui. Puis peut-être aussi, c'est une question de production, que c'est difficile, mais juste le fait d'avoir un film de 3 heures comme ça, et aussi qui est ambigu quand même, c'est pas l'espèce de pamphlet gauchiste auquel on pourrait croire, là,
non,
au contraire,
mais
là,
non,
justement,
les
personnages sont très remis en question, mais la droite également, tout le monde y passe un peu. Puis c'est un film très radical, avec la nudité, avec un autre personnage, une autre actrice trans qui joue un personnage trans dans ce film-là. Oui. C'est sûrement peut-être l'année trans, avec Fantastic Woman notamment.
Oui.
Venus aussi, un film québécois qui vient tout juste de prendre l'affiche cette semaine.
Oui, oui, oui.
Donc c'est ça. Donc moi, je veux juste vraiment chapeau à Mathieu Denis et Simon Lavoie pour ce film-là, ainsi que pour La petite fille qui avait trop les allumettes, des vraies propositions de cinéma. Et ça fait du bien. Ça fait du bien.
Ouais, que t'aimes ou que t'aimes pas, au moins, c'est comme c'est quelque chose de différent que de ce qu'on voit sur les... tu sais, c'est le contraste complet à un film de Bernard Raymond sur fond blanc, là. C'est vraiment complètement l'opposé. Puis ça a fait du bien. J'ai comme ouvert le festival avec Pour vivre ici, puis j'ai fini mon festival avec Ceux qui font les révolutions.
Ah,
ça a été,
hein.
Là, j'ai passé par la gamme complète des émotions. Puis tu sais, on parle de propositions inattendues, mais All You Can Eat Buddha, je suis allé le rattraper, puis c'est vraiment bon. C'est vraiment une expérience unique. Un peu, ça tourne un peu dans le David Lynn, je pense, dans le ton, mais peut-être avec un peu plus d'humour, pince sans rire. Donc, c'est un film très difficile à résumer. Là. Ça se passe dans un resort à Cuba. On est dans un tout inclus. Puis, on suit une espèce de personnage qui est un Français bedonnant qui se gave la face dans le buffet à volonté. Puis, c'est aussi étrange que ce que je viens de raconter. Il y a des personnages qui planent autour puis qui commencent à le prendre comme une espèce de pas un dieu, mais comme quelqu'un de fabuleux, là, qui a une espèce de don avec lui. Puis on croit ces personnages-là complètement décalés de la réalité, qui commencent à avoir une fascination envers ce gars-là. Mais tu suis le gars qui est étrange. Puis c'est du cinéma offbeat, ça ressemble à rien. Là. Comme je dis, ça apprend peut-être un peu à David Lynch, peut-être un peu même à un humour à la Quentin Dupieux. C'est vraiment décalé, puis une très très belle surprise dans le festival.
Ouais, ouais.
L'aviez-vous vu, vous autres?
Hey, même pas. Puis je contribue au problème parce que, tu sais, là, on en parle abondamment. En tout cas, moi, dans mon réseau, on en parle abondamment, là, que, tu sais, il y a une surenchère de cinéma québécois, là, je fais partie du problème. En même temps, bon, heureux problème, peut-être, parce que je pense que c'est pas non plus des films qui sont dénués d'intérêt, clairement. Mais, tu sais, comme je le disais, moi, la même journée que moi, Alien Gouda sortait au Beaubien et La Porte du Diable sortait aussi au Beaubien. Moi, je sortais au Cinéplex. En tout cas, bref, puis là, la semaine d'après, il y a déjà d'autres films, là, Chien de garde sort. En tout cas, ça roule. Oh, puis en plus, moi, j'ai manqué une semaine parce que j'étais encore à Berlin à ce moment-là. Fait que, c'est sûr, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais pas encore allé. Là, je suis revenu. Mais, fait qu'entre-temps, moi, je pourrais vous en parler. Il y a une crime, c'est vrai. J'ai comme vu 4 films à Berlin, dont le nouveau Olivier Godin. Puis le film qui a gagné dans la section Génération aussi. En tout cas, on pourrait l'accrocher si ça nous tente. Mais, tout ça pour dire que, ouais, j'ai juste manqué de temps, man. J'ai exactement comme plusieurs personnes qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, j'ai manqué de temps pour aller voir ton film. » Je suis comme « Fair enough, moi j'ai manqué de temps pour voir le Kenny de Bouddha. » Tu sais, je veux dire, je suis pas... C'est pas évident, là. Mais c'est ça.
Ah, mais tu parles de Olivier Godin, moi j'ai rattrapé les heures de la parole, là. J'étais vraiment curieux,
ouais, trippé,
vu qu'il y avait...
Hein?
Ouais. Mike, hein? Qu'est-ce que t'as dit?
T'as pas trippé, je pense, hein? Non?
Hey my God, j'ai eu vraiment de la misère. Puis c'est dommage, ouais. Parce que, tu vois, là, on parle de proposition originale, puis la proposition est là, puis genre, je l'adore, la proposition. Les dialogues sont vraiment cool, c'est super offbeat, il y a de l'humour un peu étrange là-dedans. Mais ça a tellement une facture amateur comme film, puis c'est ça que je trouve tellement décevant. Mm. Ça a l'air d'un... Tu sais, ça a l'air d'être shooté, tu sais, je dirais pas en mid-DV, là, mais c'est comme... C'est vraiment cheap, l'image, là. Tu sais, on dirait qu'il y a pas de souci de direction photo. Les acteurs, la plupart, ils sonnent faux. Il y a peut-être un ou deux acteurs à travers le lot qui sortent, puis avec un bon jeu, mais sinon, c'est très amateur, là, dans l'acting. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'étais comme... C'est comme dommage de prendre un univers aussi intéressant, une belle idée, puis de finalement l'exécuter un peu tout croche, là. Ben, je gâche que c'est une... Mais non, mais je suis désolé, là, c'est un peu le feeling que j'ai eu, puis j'ai l'impression que c'est un choix artistique, puis c'est... Écoute, ça va plaire à certaines personnes, ce choix-là, mais moi, j'ai vraiment de la misère à accrocher, vu que le niveau technique puis le niveau d'acting, ouais. il m'a vraiment rebuté sur le film, là. Mais moi, c'était la première fois que je voyais un de ses films, fait que c'est comme... Ouais. C'est peut-être que j'ai pas vu son meilleur travail, là, mais j'avais pas vu Nouvelle, puis j'ai pas vu ses courts-métrages, donc... C'est ça, là.
Ben déjà, Nouvelle, il est plus doux à ce niveau-là, là. Tu sais, je pense vraiment que les arts de la parole, ça pousse, là, l'esthétique lo-fi à un niveau, tu sais, c'est artisanal de chez artisanal, là.
Ouais, c'est ça, exact.
Ça, tu dis, c'est loin d'être improvisé, là. Tu sais, il y a vraiment comme une démarche artistique, Olivier Godin.
Ah non, puis on s'en rend compte, là.
Puis tu sais, comme ces acteurs aussi, ils leur demandent aussi une espèce de, presque un anti-jeu, tu sais, qu'il faut... Il y a un phrasé particulier, puis lui, il se considère presque plus comme un poète que comme un cinéaste, dans un sens.
Ouais,
mais
ouais.
Ben, je sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que la place de la langue est très importante dans son cinéma. Et l'élocution aussi, la façon dont les acteurs jouent, donc c'est vraiment pas laissé au hasard.
Ah non, puis c'est pas ça que je dis du tout, hein, parce que c'est ça que je dis, l'idée puis le texte, je le trouve vraiment intéressant, puis tout ce qui est dans les dialogues, j'adore ça, c'est juste que c'est l'exécution des comédiens, je trouve que ça casse complètement le contact avec le public, c'est comme un peu de, tu sais, de... Une façon de voir, tu sais, le cinéma série B, tu vois les ficelles, puis c'est le fun de travailler avec ça, mais il faut que tu sois un peu pince sans rire. Puis on dirait qu'il me manquait, c'était tellement intello qu'on dirait qu'il aurait fallu qu'il joue peut-être un petit peu plus, je sais pas là, un petit peu plus groundé comme au niveau de la réalisation, mais en tout cas, c'est vraiment... C'est vraiment ce que j'ai ressenti, là, mais ça peut peut-être plaire à des gens. Là.
Mais Paul, Rémi, peut-être te réconcilierais-tu avec Olivier Godin en attendant Avril? Parce que moi, Olivier Godin, écoute, moi, je respecte énormément son travail. D'un aussi, c'est quelqu'un que, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'être, c'est vraiment quelqu'un que j'admire et je respecte et j'apprécie beaucoup. Mais je t'avoue que, ben, pas que je le compare à Guy Madden, mais j'ai même un petit peu de critique. Je trouve qu'il fonctionne souvent mieux en court-métrage qu'en long-métrage. Je trouve que, tu sais, comme il invente un peu ses règles au fur et à mesure, je trouve que des fois, les intrigues se perdent puis l'humour devient un peu fade à l'usure dans ses films, ou du moins le style, on dirait qu'on perd de la nouveauté à chaque minute qui passe. Ben moi, en attendant Avril... Donc, moi, j'étais vraiment pas du camp des convertis aveugles là, au niveau de son cinéma. Ben, en attendant Avril, ça a été une très belle surprise, en fait.
Ah, cool!
C'est son film, de un, le plus rythmé, de deux, le plus drôle, De trois, on dirait qu'il est tout le temps en train d'essayer de se désamorcer l'intellectualisme. Tu sais, il y a genre la détective Affigan, là, entre autres. Tu sais, c'est vraiment un film, là, de une enquête, là, puis c'est vraiment, c'est un peu sans queue ni tête et tout, là. Bon, s'il m'écoute, désolé, Olivier, là, de rabaisser ton intrigue à quelque chose d'aussi banal, là. Mais, donc, c'est quand même, comme encore une fois, un peu la brochette de personnages, des artefacts magiques, c'est les voix hors champ, c'est l'utilisation de la musique. C'est la forme qui justifie l'existence d'un film d'Olivier Godin, malgré les lettres, malgré qu'il est très, très versé vers la poésie. Mais dans ce film-là, c'est ça, c'est quand même une intrigue, là, ça fait sitcom même, là. Il a tourné entre autres beaucoup chez lui, dans un parking, dans un salon de coiffeur. Il a presque pas de set. C'est très vaudeville, ça rentre, ça sort. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement drôle. On dirait que il s'est comme abandonné à un certain. À la légèreté. Il a assumé la légèreté. Puis je me suis surpris à me dire, ah waouh, on dirait que. C'est peut-être paradoxalement comme ça que je le préfère, Olivier Godin. C'est quand. Il est tellement intellectuel, le gars, qu'il n'a même pas envie de. Tu sais, il se prend même plus au sérieux. Là. C'est comme genre. Il est complètement en train de s'auto-saboter à chaque détour. Entre autres, le détective est tout le temps en humour scatologique. Là, tu sais, elle insulte tout le monde, le petit anus broussailleux. Puis, tu sais, comme. On est vraiment là, dans des genres d'insultes là, comme ça, mais genre avec un niveau de langage élevé. Mais genre pour dire des obscénités. Puis, entre autres, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans En attendant avril. Il y a un personnage qui pue. Il y a un personnage qui se lave plus, il y a une peine d'amour. Puis c'est quoi, grosso modo, il y a une intrigue policière un peu, oui, mais chaque personne un peu cherche l'amour et peut-être le trouvera-t-il. Les personnages, ça se match, puis tout le monde a des quêtes amoureuses qui finalement, tout le monde, un peu comme dans un sitcom, tout le monde finit par interagir avec tout le monde, puis à la fin, il y a comme des matchs un peu improbables qui se produisent et tout, bon. Puis il y a un personnage, entre autres, qui se lave plus. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que tous les personnages, à toutes les fois, là, c'est comme genre, mon Dieu, ouais. Puis ils lui disent en pleine face. Puis à un moment donné, c'est quasiment, on dirait que tu le sens, genre, t'es tout, tu sais, c'est bien une chose que le cinéma apporte John Waters avec ses odoramas ou peut-être, mais, tu sais, l'odeur, c'est pas véhiculé par le cinéma. Puis dans ce film-là, c'est un des rares films où c'est allé aussi loin, genre. C'est comme l'odeur, ça, l'odeur.
Ça, c'est vraiment les petits détails que j'ai trippé dans Les Heures de la parole, puis que, tu sais, que je trouvais dommage un peu qu'il était noyé dans l'esthétique qui me plaisait moins. Puis c'est, tu sais, le personnage principal qui est joué par Michael Jaroszewski, qui était notre prof de cinéma à Concordia. C'est ce qui est vraiment curieux parce qu'il n'est pas comédien dans la vie. Un de ses traits de personnage, c'est qu'il s'assoit jamais. Parce qu'il, tu sais, il dit que c'est pas bon, genre, pour... je sais plus trop quoi, là, genre, ta colonne, je sais pas trop quoi, là, je vais pas changer la signification, mais il s'assoit jamais, mais tu sais, t'as souvent des scènes qui ouvrent avec « Assoyez-vous, je ne m'assois jamais », puis là, après ça, la scène à part, tu sais, ils font juste placer ça, genre, au début des scènes, puis c'est tellement sympathique comme petit détail de personnage, mais
ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça que j'ai aimé, puis j'aurais juste aimé ça voir. Fait que c'est sûr, je vais lui redonner une autre chance. Là. C'est pas tout perdu. Là. C'était juste peut-être le format qui m'a moins plu. Là.
Ben moi, en attendant avril, je te dirais que c'est ma. Ouais, c'est j'en suis sorti très très positif. Donc quand même. Puis Olivier Godin, il est là pour rester. Je veux dire, rendu là. Hein.
Ouais.
Il en fait un par année, puis il continue. Fait que bravo Olivier Godin.
Bravo Olivier Godin.
Une autre belle surprise pour ma part, ce fut le petit film Claire l'hiver.
Oui.
Petit film avec beaucoup de cœur, en fait, de Sophie Bédard-Marcotte. Bon, c'est une fiction et elle joue donc le rôle principal en plus de signer le scénario et de réaliser le film. C'est donc l'histoire d'une jeune photographe qui est sortie de l'école depuis quelques années. Ça va plus ou moins bien. Elle se remet un peu en question. En plus de ça, elle a composé avec un peu son couple qui bat de l'aile, rupture, tout ça. Donc, un peu du déjà vu, mais fait avec tellement de candeur, puis avec tellement une petite touche particulière et vraiment sans aucune prétention, qui fait que ce film-là est totalement attachant au final.
Ouais.
Et ça commence en fait dès le générique d'ouverture, qui est un peu... qui est comme animé, c'est comme un mix de techniques. Ça fait très... C'est quasiment absurde, un peu ubuesque. Et sur le coup, j'étais comme un peu sceptique. Je me disais, tu sais, est-ce qu'on s'enligne vers quelque chose? Puis là, il y a aussi des espèces de plans dès le départ où, dans le fond, la caméra fait partie de l'univers. Et puis là, le personnage prend la caméra, se regarde dedans, tout ça.
Ouais, c'est puis, un peu...
Est-ce qu'on va aller vers une espèce de...
Une autre façon d'utiliser le found footage, en fait. Si on est habitué à un found footage...
Ouais,
c'est pas du found footage, là, mais tu sais, du... la caméra première personne où au lieu de le mettre dans un contexte de film d'horreur, mm-hmm. on est avec une fille qui se filme avec son cellulaire puis qui est juste comme déposée des fois, mais on a, il y a jamais genre la justification, le téléphone il est juste là puis il fait juste filmer puis on est avec elle puis des fois la justification elle embarque, mais c'est quand même intéressant mm-hmm. ça, la façon que c'est exploité là.
Ouais, puis en fait ce qui est vraiment bien avec ce film là, c'est qu'il y a comme Moi, je le vois moins comme un film que comme une espèce de scrapbook filmé, en fait, parce que c'est comme si c'est une accumulation de plein de petites idées, d'observations, de détails, d'envie peut-être de faire telle scène ou tel moment, qui, donc, dans le fond, relié à une trame narrative, somme toute, assez simple et assez prévisible aussi. Mais c'est comme, c'est à travers les petits détails, c'est comme les détails qui font le film, un peu comme ce qu'on dit avec Olivier Godin, mais dans le fond, c'est que, tu sais, des fois, on dit la somme est plus grosse que les parties, mais là, c'est comme les parties qui sont plus grosses que la somme. Et je pense notamment à une espèce de plan génial, en fait, sur c'est une espèce de plan fixe, bon, puis là, il y a des effets de montage, là, sur une fenêtre, dans le fond, elle regarde la rue dehors, une nuit d'hiver où il y a plusieurs déneigeuses et machines qui donc s'occupent à ramasser la neige. Mais la manière que c'est fait, c'est qu'on a l'impression que c'est un plan sans coupure. Et tu vois comme 6-7 passages de gratteuses. Puis c'est hilarant. Puis c'est comme dans un simple plan comme ça, on dirait qu'elle résume un peu toute l'absurdité de notre système de déneigement au Québec. Mais tu sais, ça, c'est pas fait avec malice, c'est pas fait avec prétention. Une espèce de simplicité volontaire, je vous dis.
C'est vraiment charmant, mais en même temps, elle ose des concepts, elle ose une philosophie. Bon, c'est de l'autofiction, elle met un petit peu en scène ses inquiétudes par rapport à sa propre carrière de cinéaste. Là, elle le transpose dans un alter ego en photographie. Tu me diras, oui, comme on disait tantôt, est-ce que ça a déjà été vu plusieurs fois? Oui. Mais c'est qu'on dirait aussi qu'elle a de l'autodérision, Sophie. Elle a juste finalement plusieurs bonnes idées simples. Puis même, en fait, l'exposition photo de son protagoniste, c'est une idée qui est très, très simple aussi. Puis, mais en même temps, c'est une très bonne idée. L'exposition photo en question qu'elle essaie de monter, c'est... elle expose tout plein de petits objets qu'elle a détruits par le stress. Tu sais, mettons, les bouchons de bière mâchouillés ou, tu sais, tout plein d'affaires qu'elle a brisées ou qu'elle a égratignées, tu sais, dans des moments d'angoisse. Ben, elle expose ça pour exposer un peu sa crise existentielle. Puis, tu sais, c'est un peu ça
sur le détournement, un peu. C'est un peu comme voir la vie d'un autre œil.
Oui, absolument, absolument. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si elle compense, finalement, son manque de moyens par toujours, on dirait, comment cueillir la bonne idée. Puis c'est pas une bonne idée, ça coûte rien quand c'est bien fait, puis c'est fait de façon artisanale dans son cas. Puis je trouve que c'est ça, c'est un film débordant de bonnes idées, puis ouais, on en ressort vraiment charmé, pour vrai. Moi,
ça me rappelait un peu, peut-être pas au niveau visuel là, mais au niveau ce que j'ai ressenti là, ça me faisait penser au cinéma de Miranda July là, qui avait fait Me and You and Everyone We Know, qui est comme c'est ça là, des petites idées qui sont comme du feel good mais qui remettent en question des gros sujets de façon ultra originale. Puis moi j'ai adoré aussi là, très très bon petit film là.
Ah, ben crème, un 3 en 3, mm-hmm. C'est le fun.
Puis un film d'à peine une heure aussi. Puis ce qui est le fun aussi, puis ça bon, c'est un peu un dévoilement que je sais pas exactement si ça a contribué à mon appréciation du film ou si ça à l'inverse, mais en séance de questions-réponses après la projection, j'ai demandé la question en fait à propos de l'improvisation, puis savoir à quel point le film est calculé, parce que notamment je me posais la question par rapport à un plan où il y a la caméra dans une voiture, là il y a quelqu'un qui freine sec, puis la caméra comme accroche un tableau. Puis finalement, ce plan-là, c'est tout à fait calculé, ça a pris 10 takes, il y avait comme la directrice photo en arrière avec son bras, tu sais, c'était vraiment compliqué, il fallait tout, quand même une chorégraphie là, qui se time pour pouvoir au bon moment, tu sais, envoyer la caméra de manière, tu sais, que ça a de l'air aléatoire justement et accidentel, alors que c'est vraiment calculé, puis ça a pris plusieurs répétitions.
Ouais.
Fait que c'est ce genre de... C'est ça, puis ça a l'air facile comme film, ça a l'air simple. C'est parfaitement le genre de film, parce que c'est tourné en appartement, parce qu'il n'y a qu'une poignée de personnages, parce qu'il dure à peine une heure, qu'on se dit « Ah, tu sais, c'est facile, ce film-là, j'aurais pu le faire. » Mais bout à bout, tu regardes ça et tu te dis « C'est vraiment une belle proposition, réfléchie. » et fait avec goût.
Puis Sophie a continué à peaufiner son style. Tu sais, je pense que on l'avait vu, elle avait un peu dealé un peu avec ça, avec un documentaire qu'elle avait fait précédemment. Puis là, tu sais, là, justement, tu parlais de Miranda July. Son prochain projet à Sophie, c'est un road trip où son objectif, c'est d'aller rencontrer Miranda July pour qu'elle lui donne des conseils, là. C'est ça la proposition, le synopsis de son prochain projet, là. Fait que c'est pas un hasard. Mais ouais, il y a comme quelque chose de la rigueur, de la démarche qui va nous avoir aussi à l'usure, tu sais. C'est pas un feu de paille, définitivement. Elle est là pour rester dans sa démarche qui est très, très propre et personnelle. Puis ouais, qu'elle continue sur cette voie-là. Claire Lévesque, c'était vraiment très bien. Ouais.
Puis elle joue très bien, je pense, le premier rôle. C'est pas un rôle qui est très exigeant, parce que c'est quand même, c'est ça, elle est très introvertie, puis je pense qu'elle est, elle le fait très bien. Mais je voudrais aussi donner un petit shout-out à donc, sa meilleure amie dans le film, jouée par Alexandra Jeanne
Dubé.
Ouais, très bonne actrice, je trouve, encore une fois, très bonne ici, très drôle, notamment, ouais, il y a vraiment des conversations avec elle, avec ces deux-là, qui sont très le fun, puis c'est ça, c'est que des fois, ils ont des conversations, ils ont des fous rires, puis c'est là, tu dis un peu la ligne est mince entre est-ce que c'était vraiment un fou rire calculé ou si c'est un fou rire qui a eu lieu puis qu'on a gardé au tournage. Puis ça, au final, c'est des questions que, dans le fond, la réponse importe peu. C'est juste comme ça fait partie du projet, puis le côté improvisé, le côté un peu, c'est ça. Puis elle a un chat dans le personnage, dans le film, son personnage a un chat. Ainsi qu'elle dans la vie. Puis tu sais, ça, je pouvais pas m'empêcher de comparer un peu son personnage un peu. Elle a un petit côté félin, un petit côté, tu sais, justement, là, la femme imprévisible, tu sais, que des fois, qui a des envies particulières, des coups de tête, tu sais, qui agit un peu vraiment sur son instinct. C'est ça, il y avait de quoi de vraiment très riche dans ce film plutôt modeste, oui, dans un sens.
Oui, ce qu'on en retient, c'est que tu as un petit côté félin, Sophie. C'est ça,
ouais,
que
tu as dit.
Non, non, mais vous comprenez pas ce que je veux dire. Vous comprenez.
Ouais, non, mais dans le sens où, ben, il y a aussi comment qu'elle se met en scène, c'est-à-dire, tu sais, des fois, on regarde notre chat, puis on a l'impression qu'on l'analyse, ou tu sais, un animal, on les regarde,
exact,
puis
ouais,
on est comme, on est fasciné par leur comportement, tu sais, au sens, là, genre, on les étudie, puis le film, finalement, elle braque sa caméra, puis c'est comme si elle s'étudie un peu elle-même, donc c'est peut-être pas anodin, là, ce que tu dis, parce que quand même, je pense que ça double un peu la façon comment elle se met en scène dans le film.
Au niveau de la solitude, ben, oui, là, puis ouais. Tous les petits moments qui sont tellement anodins puis qui se font capter comme ça. Là.
Absolument.
Aussi, Rémi, tu m'avais dit que tu avais eu un gros coup de cœur pour le film Boost que j'ai pas entendu parler.
Oh, ouais.
T'as-tu vu ça, Pascal?
Non.
OK.
Non, mais je sais c'est quoi, mais je suis curieux.
OK, mais là, pour vrai, moi, j'étais vraiment surpris. Puis après ça, j'ai vu que les comédiens étaient nommés pour les prix écrans canadiens. Je pense que trois des comédiens qui sont nommés, puis c'est très, très mérité, là. En fait, ce film-là sort complètement de nulle part. Puis c'est en regardant les bandes-annonces, j'aime toujours ça quand je fais des festivals. Là, j'en ai vu une dizaine. Il y en a peut-être huit que je voulais vraiment voir, puis il y en a deux que j'ai pris des chances. Puis c'est une bonne chance que j'ai pris, en fait. J'avais vu le premier film de ce gars-là à Fantasia il y a une dizaine d'années. C'est le premier film que j'ai vu ever à Fantasia. Fait que c'est quand même un gros truc pour moi là, dans ma vie. Là. Puis c'était le film Où is Keke Downey, qui était vraiment bon, en fait, sur une espèce de chanteur incognito. Mais tu sais, ça fait 10 ans, puis un artiste évolue en 10 ans, puis là, c'est son deuxième long-métrage. Donc en 10 ans, il avait pas fait d'autres films. Puis c'est en fait, ça dépeint la vie de deux jeunes dans un parc extension qui font un vol d'auto pour tu sais, parce qu'ils sont jeunes puis ils sont cons puis ils veulent faire une passe de cash, puis ça, leur vie s'écroule un peu autour de tout ça là. Mais tu sais, ça dépeint la réalité des familles pauvres, les familles noires immigrantes qui sont dans le nord de Montréal puis qui ont de la misère à survivre. Puis c'est comme une réalité qui est pas du tout montrée dans le cinéma québécois habituellement, avec les petites comédies de Jean Blanc qui ont des problèmes de couple, là, ou de Madame Triste qui pleure en regardant une feuille blanche, là. Mais non, mais c'est un film c'est un film vraiment honnête, avec des performances tellement réelles. En fait, j'ai vraiment pensé à toi, Pascal. C'est vraiment le genre de film que t'aimes, d'après moi, là. Mais c'est un coming of age qui est en fait un drame de personnage. Puis ça avait été fait en, de base, ils pitchaient pour. C'était la SODEC qui donnait des fonds pour des petits films de genre, des films à petit budget, mais des films de genre. Puis eux autres, ils ont vendu ça comme un thriller de on vole des chars, là. Puis la SODEC s'attendait probablement à avoir un truc plus à la Fast and Furious. Mais finalement, c'est vraiment un drame de personnage qui est ultra touchant, puis tellement bien joué, puis tellement réel. Il y a des scènes dans des classes avec. Les profs qui parlent français, puis eux, c'est des anglophones, puis ont de la misère à s'adapter. Ils parlent les deux langues dans leur école. Puis ils sont pas dans les quartiers que nous autres, on est habitués de voir ça dans notre cinéma. Donc, c'est un film qui sort de la norme, puis que je suggère, je sais pas trop comment le voir. Est-ce qu'il y a une sortie en salle d'une autre façon, ou s'il va sortir en VOD, mais pour vrai, c'est... Le titre est mauvais, là. C'est, ben, Boost...
Ben, c'est ça. J'ai peut-être été rebuté par... Par le exact, titre, c'est... le poster, le packaging du film. Je t'avoue que tu exactement. M'en parles. Exactement. Tu me rends ça vraiment plus intéressant que comment je l'abordais. Juste à cause des promos, là. C'est vraiment niaiseux. J'ai même pas fait une recherche poussée. Là. Donc, mais occupe pas. Là. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens dans un festival. Tu regardes un catalogue, tu regardes les films qui jouent, tu regardes les horaires. Je veux dire, des fois, on n'a pas grand-chose. Des fois, on se dit j'y vais pas, ça peut jouer sur une niaiserie, tu sais, c'est pas une niaiserie, un poster, là, on en a pas parlé encore dans les derniers podcasts, non, super important, puis je sais pas, il y avait quelque chose de ce packaging-là qui faisait un peu transit, ou qui faisait un peu, tu sais, transit de Christina Cortina, là, ou je sais pas, là, la run, ou tu sais...
T'as absolument raison, c'était l'espèce de truc slick qui a l'air de se trouver cool un peu, là. Tu sais, je sais pas comme, si tu comprends ce que je veux dire, mais qui veut trop faire un film américain, là. Ça avait vraiment l'air de ça, le poster, mais le film, c'est pas du tout ça, là. Okay. C'est comme tourné à caméra épaule, vraiment bien shooté. Comme je dis, c'est les comédiens puis le dialogue. Puis tu sais, ça parle de la réalité des Noirs à Montréal, dans un milieu de vie défavorisé. Puis tu sais, je m'attendais à voir un gars qui vient de là en avant de la salle, là, je me souvenais pas du tout c'était qui le réalisateur quand je suis allé voir le film. Puis c'est un gars en fait qui a fait il a fait la web série aussi, je pense que ça s'appelle My Yiddish Life ou un truc comme ça, qui est sur les communautés juives à Montréal. Puis c'est vraiment un juif blanc qui est pas du tout dans ce milieu-là, mais qui s'est vraiment bien entouré, puis qui a compris le milieu, il a compris la réalité de ces gens-là, puis il a fait un portrait honnête, puis c'était vraiment surprenant en fait, là, parce que c'est un truc qui peut être tellement edgy. Puis il y avait Arshad qui avait réalisé aussi l'excellent documentaire Abou, puis Arshad qui est pakistanais, puis qui est super sensible à ça, puis il avait été consulté avant, puis lui il avait vraiment peur que le scénario ça se dirige vers quelque chose d'un, tu sais, un mauvais portrait de ces gens-là. Puis finalement Arshad était un peu sur le cul aussi à la fin, il est resté pour le question et réponse juste pour donner ce commentaire-là, que finalement le portrait, il a réussi le pari, là.
Ouais.
Je vous le recommande vraiment, puis soyez pas rebutés par la promo, parce qu'effectivement c'est complètement autre chose. Ils ont essayé de le marketer pour I guess pour que ça devienne un succès populaire, mais c'est pas ça le film, c'est pas ça l'intention du tout. Je suis vraiment tombé dessus parce que j'ai regardé la bande-annonce, puis j'ai lu le synopsis, puis ça m'a donné plus une autre vibe. Donc c'est ça, là. Tu sais, contrairement à d'autres films où tu... de cette année, je checkais dans le programme, il y a des trucs un peu weird qui ont passé, puis mais ça j'étais content de mon choix, puis c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de buzz que ça autour du film.
Ouais, ok, bon.
Mais au moins, en espérant que les prix écran canadiens, ils donnent un autre souffle au film, là.
Cool.
Sinon, peut-être une petite mention rapide pour un documentaire qui va jouer à la Cinémathèque prochainement. On parle d'un documentaire de comme 50 minutes, là. C'est vraiment comme un spécial télé, là. Ça s'appelle François Barbeau, créateur de costumes.
Oui, oui.
C'est sûr qu'on est dans le très conventionnel, témoignage et images d'archives, bon, parce qu'il nous a quittés en 2016, François Barbeau. Et moi, je ne le connaissais pas du tout, en fait, c'est peut-être, vous pardonnerez mon inculture. C'est considéré comme, tu sais, vraiment comme notre plus grand costumier de l'histoire du cinéma et du théâtre, surtout québécois. Et un de ses derniers grands projets, ça fut Lawrence Anyways de Xavier Dolan. Mais il avait fait vraiment plein de costumes pour le théâtre, pour les grands ballets canadiens, pour plein de productions. Et de voir ses œuvres, c'est vraiment impressionnant. Et lui, c'est vraiment un artiste très, très humble. T'sais, on le voit là, travailler. Il a vraiment l'air d'avoir du plaisir avec ses collaborateurs. Puis, il avait vraiment aussi ce goût de la transmission. Il y avait toujours des stagiaires autour de lui. Il était toujours en train d'expliquer des trucs. Puis, t'sais, il jamais perdait patience. Donc, c'est une espèce de petit bonbon. Tu sais, dans un autre monde là, où nos films sortiraient encore, nos films québécois sortiraient en DVD avec des bonus et tout ça, maintenant qu'ils ne sortent plus du tout en DVD, ce serait un espèce de gros bonus incroyable.
Ouais,
mais
ouais.
si vous avez envie, si le sujet vous intéresse, peut-être vous êtes curieux. Il sort à la Cinémathèque dans quelques semaines ou quelques jours. Je n'ai plus la date exacte, là, malheureusement. François Barbeau, créateur de costumes de Jean Baudry.
Ouais.
Très beau portrait.
Non, mais cool!
Cool. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner, Pascal?
Hey, ou Rémi? Ben, en fait, là, moi, c'est super rapide parce qu'en plus, il va falloir que je file. Là, ils vont rapper, je pense, parce que c'est ça, j'étais pas dans la dernière scène en tant que figurant. Fait que là, ils vont rapper, ils risquent d'avoir du gros bruit dans une dizaine de minutes. Là. Mais, voulez-vous que je rende contre Darkest Hour de Joe Wright?
Ah oh, oui, vite, vite, fais ça. Oh, un petit coup.
Sérieux, là, c'est vraiment.
Deux minutes pour Darkest Hour.
Ah, je peux te le faire en deux minutes, mon gars. C'est vraiment. À mon sens, là, c'est Joe Wright a perdu la tête complètement. Rien de moins. Je veux dire, bon, OK, on va lui donner les quelques fleurs, mettons les quelques pétales que je peux lui donner, puis après ça, je vais lui lancer un pot. Là. Mais, tu sais, je veux dire, OK, c'est beau, c'est bien filmé. Les protèges Churchill, c'est quasi convaincant au niveau, tu sais, à quel point est-ce qu'on est complètement dans le Churchill réaliste versus le Gary Oldman, parce que je pense que, tu sais, il y a quand même un équilibre à trouver, c'est-à-dire si c'est trop Gary Oldman, ben c'est trop Gary Oldman pour les raisons évidentes, puis si c'est trop Churchill, je pense qu'on perd une nuance de performance. Bon, ça, c'est quand même semi-bien fait. Mais ce film-là, je veux dire, c'est abominable. Je veux dire, c'est le pire film qui, d'une façon indirecte, fait l'apologie des espèces de leaders de nations autocratiques, despotes, un peu comme, genre, à côté de la plaque. Puis, calisse, man, tu peux pas écouter ça puis pas penser à Trump. Puis je sais qu'on va le défendre, puis on va dire, ben, on s'est basé sur les personnages historiques, mais il y a tellement des choix de montage, d'amalgame de scènes. Il est tout le temps comme un peu l'ivrogne qui arrive puis qui écoute personne. Puis, mais tu sais, encore là, le mauvais rêve américain de genre le self, tu sais, la personne qui est arrivée là, puis que là, maintenant, tu sais, c'est moi qui ai tout le temps un peu la bonne solution. Puis en même temps, les autres personnages, ils vont dire, ouais, tu sais, mettons, sur 10 idées, il va en avoir juste deux de bonnes dans sa journée, ha ha ha. Mais genre, non, man, c'est dangereux, des personnalités comme ça, puis surtout que la personnalité comme ça, qui est présentement président des Américains, je veux dire, je te jure, là, ce film-là, c'est peut-être pour ça que ça m'a touché, ça m'a rongé à l'os, là, mais genre, je pouvais pas ne pas voir une espèce d'apologie de ces espèces de leaders-là qui travaillent pas en équipe, qui sont complètement, genre, des gros personnages, là, puis que, genre, mais, oh, mon Dieu, je te jure, le scénario, le nombre de fois que je grinçais des dents, puis j'irai pas dans le spécifique, parce que, pour vrai, je pense que là, vous avez compris que j'ai pas aimé ça pour des raisons qui sont quand même idéologiques, mais, je veux dire, oh, mon Dieu, oh, par où commencer, ou par où finir, en fait, Darkest Hour, pour vrai, c'est Joe Wright, je l'adore, et hey, puis en plus, même son Black Mirror, OK, j'ai écouté de la télé il y a pas longtemps, tu sais, récemment, j'ai écouté les 4 saisons de Black Mirror. L'épisode de Joe Wright, c'est genre mon préféré de la gang, là. S'il y a bien quelqu'un qui sait mettre en scène, hey, Anna Karenina, je sais que j'ai pas à me défendre d'aimer ou de pas aimer un film en particulier, mais tu sais, Anna Karenina, j'étais dans le camp des grands défenseurs. Je veux dire, Joe Wright, en général, c'est un cinéaste
Anna
que je suis.
Aussi, là, même Anna aussi, là, il un scénario qui pourrait être dumb as fuck, mais oui. Puis il fait genre un beau truc avec, là.
Mais là, vraiment, là, je veux dire... Puis ça tente l'humour, là, mais c'est que c'est tellement... Puis la relation avec sa femme, puis avec Kristen Scott Thomas, puis juste voyez-le, man, c'est hallucinant à quel point il a perdu la tête. Puis OK, je pourrais aller plus en détail.
Voyez-le pas, là.
Ben,
décide-toi.
Voilà, parce que c'est un navet, c'est un profond navet. Genre, c'est vraiment un film, là, exécrable. Puis honnêtement, j'ai rien de plus à dire, man. Sérieux, si on voulait aller en détail, puis si vous l'aviez vu, je pourrais comme peut-être étoffer mes arguments, mais j'ai même pas envie d'aller là. Je trouve que c'est un film tellement bête que je vais en rester à comme une critique bête. C'est un film imbécile, puis genre, c'est le pire film, man. Mettez Florida Project ou Good Time ou n'importe quoi dans ce spot-là de Best Picture. En tout cas, je vais arrêter. Ah ouais, je sais, man. Mais bon, j'arrête là. Fait que Darkest Tower,
Joe
faut,
Wright,
faut, ouais, non, Joe Wrong, man.
More like Joe Wrong.
Ok, on arrête avec ça. On arrête là-dessus.
Ben, je pense que ça conclut de façon parfaite notre point de vue cette semaine.
Oh oui.
On va se quitter sur la bande-annonce du film Chien de garde de ce film.
Ah, yeah.
Film de clôture de RVQC qui prend l'affiche donc le 9 mars. L'un des 27 longs-métrages québécois qui prennent l'affiche cette semaine-là.
Ouais.
C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landrio. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante. Go Dead Obese.
Est-ce que je t'ai eu, même? J'ai menti, même.